Jeudi à 20h, c'est Gay et Lesbien sur Radio G.
Tout le monde est barbu ce soir. Même certaines filles dans le public d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Je parle cuisine aujourd'hui.
Peu importe la taille, ce qui compte apparemment, c'est de bien savoir les titiller.
Tonix Live, une émission gay et lesbienne de l'association Tonix, un jeudi sur deux, de 20h à 21h sur Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Des garçons qui aiment des garçons, des filles qui aiment des filles, et des qui aiment les deux, des qui aiment aucun. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités de mélange. Et les mélanges, on aime bien ça. La preuve, nous invitons ce soir les animateurs des autres émissions de la station pour un savoureux crossover. Attention au choc des cultures, voici Tonix Live.
Libéré!
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Tonix Live, l'émission gay et lesbienne de l'association Tonix. Ce soir, on vous propose de découvrir ou redécouvrir nos crossovers radio. Nous invitions en effet les animateurs des autres émissions pour parler avec nous de leur univers, tout en les confrontant à celui des LGBT. Ce soir, on continue donc de fêter les 20 ans de Tonix Live. On partira en Afrique et dans les Caraïbes, on fera de la poésie et on écoutera d'étranges musiques. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM à Angers, Jet FM à Nantes sur 91.2 ou partout dans le monde sur fréquenzik.com, Deezer et Spotify. Alors que vous soyez LGBTQI, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bienvenue, c'est Tonix Live. Pour vous qui nous suivez régulièrement, certaines informations sont acquises et vous seriez imbattable sur un quiz LGBT. Mais nous ne sommes pas le centre du monde et d'autres ne se posent pas les mêmes questions que nous. On va le découvrir avec les questions de Clotaire. Et vous, vous auriez bien répondu ? Allez, en public, au bar Le Bazar d'Angers, on retrouve Étienne, Lucie et Johan de Feu l'émission Musique de Nuit pour cette première question.
Eh bien, j'ai préparé des petites questions.
Qu'est-ce que le Trouvada ? Alors, réponse 1, une danse nue brésilienne, muy calor, me chiqueta.
Ouh là là.
Réponse 2, un médicament qui peut être prescrit aux personnes séropositives. Réponse 3, une crème pour apaiser les hémorroïdes. Réponse 4, c'est comme Trivago, mais pour les gays. Trouvada, quoi.
C'est nul. Bon, alors, ça serait quoi ?
Alors,
j'allais dire je donne ma langue au chat, mais je pense que ça peut être détourné, donc je vais pas le dire.
La danse, le médicament, la crème ou le site de voyage ?
Je dirais le médicament.
Le médicament, alors pas le site de voyage.
Soit la première, soit la deuxième. Une danse,
moi j'étais bien sur la crème pour les hémorroïdes, mais ça s'appelle pas comme ça en général.
Trivada, ouais. Non, moi je sais pas, comme Trivago, mais pour les gays, parce que ça c'est bien un truc de marketeur.
Trivada. Alors on y va, il faut vous décider.
Bon, allez, moi je vote pour la danse nue brésilienne, parce qu'il y a la petite citation.
La danse nue brésilienne.
Bon, alors attends, on va faire une petite réunion pour en parler là.
On n'a pas toute la nuit, parce qu'il n'y a pas que cette émission.
Moi je dirais bien danse nue brésilienne, parce que j'ai envie de le voir. Avec ses clips, ça, si jamais c'est ça.
Faut pas lui dire ça.
Hein. Non, faut pas lui dire ça.
Il a vite des habits.
C'est bon.
Oulala. Allez, danse nuit brésilienne vendue.
Alors, c'est quoi le Trivada ?
Eh ben, c'est un médicament qui est prescrit aux personnes séropositives.
Ah, vous avez d'accord.
Totalement faux.
Ah, bah zut alors.
Et donc, en fait, à la base, donc, c'est une partie de la trithérapie qui peut être prescrite à un séropositif. Mais depuis quelques temps déjà, une analyse serait en train de se finaliser officialisant que la molécule qu'elle contient permettrait en fait à un séronégatif de protéger son organisme du VIH, même en cas de rapport non protégé en fait avec un partenaire séropositif. Pour cela, il suffirait de prendre en fait ce médicament juste avant et après le rapport. Certains déclarent qu'il s'agit d'une bonne nouvelle et d'autres restent en fait néanmoins sceptiques en restant sur l'idée que le plastique, c'est fantastique.
Et le caoutchouc,
donc,
du cardoïe.
Donc c'est pas de
comme le chanter, comme le chanter.
Sécurité.
Ah, merde. Merde, vous dites.
Oui, donc c'est pas uniquement pour les hommes, ça sert
ah
aussi.
Ah non, ça, ça peut servir aussi également pour les hétéros. Du coup.
Voilà, c'est le combat d'armes.
Ben, moi j'appelle ça une bonne nouvelle personnellement.
Pour la deuxième question, on rencontre Paul, l'animateur d'Air d'Afrique, toujours sur Radio G. Déjà, la question est dure à lire. Hein. Paul, répète après nous. Homosexualité.
En quelle année l'homosexualité...
Allez, on reprend, Paul.
Voilà.
Homosexualité.
Homosexualité a-t-elle été dépénalisée? En l'an 800... En 1980.
Ah, faut lire ce qu'il y a derrière. Hein. Alors, en l'an 800.
En l'an 800, sacré Charlemagne.
D'accord. Les auditeurs vont comprendre, t'inquiète pas.
En 1980, pendant que Sophie Marceau organisait sa première boum. Ouais. En 1982, d'ailleurs, Sophie Marceau a à nouveau organisé une boule pour fêter ça. En 1999, c'est l'effet tempête du mois de décembre. Ah. Donc, vous voulez savoir quelle année?
Oui. 80, alors, 800, l'an 800, 1980, 82 ou 99?
Je dirais l'an 800.
C'est ça. Pas du tout, figure-toi que c'était en 82.
82 ?
Ouais, avant c'était pénalisé.
Eh oui, c'était le 4 août 82, sur une proposition donc, du ministre de la Justice, l'Assemblée nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité.
Et... Vous parlez gros français, je n'avais pas compris. Bon, j'ai
la mauvaise foi, j'hallucine.
Attends, et en fait, dans les faits, elle n'était plus condamnée, mais la majorité sexuelle des homosexuels était quand même fixée à 18 ans contre 15 ans pour les hétérosexuels.
Ah, d'accord, et donc après...
Attends, rappelle-moi la date, s'il te plaît.
82.
82.
Donc, ouais. Un après Mitterrand.
C'est quand Sophie après Marceau, ma naissance.
C'est possible, on connaît pas ta naissance, mais on est. Tu t'es né en quelle année?
Je suis né en l'an 800.
Oui, d'accord.
Il est fait pas.
T'es vachement bien conservé, dis donc.
Ah, okay.
Et puis attention, quand on dit qu'elle n'était pas pénalisée avant, elle ne l'était que depuis le gouvernement de Vichy. Parce qu'avant le gouvernement de Vichy,
elle a déjà été dépénalisée.
Ouais. Hein, donc,
Puisque nous étions avec Paul, l'animateur d'Air d'Afrique, le dimanche à 15h sur Radio G, restons sur ce continent pour un constat malheureusement critique, puisque c'est l'endroit le plus touché par le VIH. On fait le point avec Florian. Ah oui, notez bien l'adage africain qui explique pourquoi on n'y utilise pas de préservatif.
Oui, alors effectivement, l'Afrique, c'est le continent qui est le plus touché par le VIH. Il y a environ 24,7 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Alors, je me base sur des données de 2013 seulement. C'est les données de l'ONU-SIDA, donc c'est l'organisation
spécifique pour
à l'ONU qui gère les questions liées au SIDA.
Ça prouve que c'est quand même une chose importante. S'il y a vraiment à l'ONU, il y a une section spécifique pour ça, c'est que c'est un problème grave.
Ah oui, c'est important, carrément. Oui. Donc voilà, et elle touche, et donc le VIH en Afrique touche principalement les femmes. Il y a 58% des femmes africaines, enfin 58% des personnes qui vivent avec le VIH sont des femmes. Voilà. Et il y a 1,5 million de nouvelles contaminations. En 2013, il y avait 1,5 million de nouvelles contaminations.
En une année, 1,5 million.
Oui, oui. Alors, c'est des chiffres qui sont en baisse. Hein, par rapport à... entre 2005 et 2013, les nouvelles contaminations ont baissé d'un tiers, en fait.
Et c'est grâce à quoi la...
Grâce aux toutes techniques de... À toutes les techniques prévention. De prévention qui sont mises en place et que j'y viendrai juste après.
D'accord.
Voilà, et donc, ces nouvelles contaminations représentent 70% des nouvelles contaminations dans le monde. Donc, elles sont principalement en Afrique.
Ah oui, c'est vraiment très concentré.
C'est concentré principalement en Afrique et principalement en Afrique subsaharienne, donc sous le Sahara, donc ce qui correspond à l'Afrique noire, en fait, hein, jusque l'Afrique du Sud. Hein,
et pourquoi? C'est parce que c'est leurs pratiques qui sont... pourquoi c'est ces pays-là, plus?
Parce que c'est lié aussi à...
Je ne crois pas que c'est leurs pratiques, mais c'est contenu peut-être d'une situation qui fait que les gens ne croient pas à cette maladie. Au départ, les gens ne croient pas à cette maladie. Ils pensent que les gens veulent les défendre de faire des enfants, ou bien de faire l'amour. Donc, ils ne croyaient pas. Donc, ce n'est pas une question de pratique, mais c'est une question de moyens et de des formations qui passent mal surtout.
Hein? Parce que pour eux le préservatif c'est plus la contraception que la protection.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis il y a un adage africain qui dit que je vais pas manger peut-être un animal avec sa peau. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Ah bah si, on te comprend. On ne va pas manger la saucisse sans la déballer, c'est ça, ouais. Ouais. C'est joli, Mandy, hein. On ne va pas manger un animal avec sa peau.
Voilà. Donc...
oui, non, effectivement, oui. Enfin, il y a plein de raisons... Il y a plein de raisons différentes qui font que bah, ça se passe là-bas principalement. Alors, je vais revenir aux moyens justement de prévention. Et alors plus que prévention, mais aussi moyen de, enfin plutôt curatif aussi, même si on ne guérit pas du VIH, mais il y a des traitements. En général, la distribution des préservatifs c'est organisé. Alors ça dépend des pays, mais c'est plutôt organisé de façon au niveau de l'État en fait. C'est en général les gouvernements qui se chargent de distribuer.
C'est-à-dire quoi? C'est dans les mairies du coin? C'est très.
Bah, en général, ça passe plutôt par des organismes publics de distribution. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Alors peut-être que.
Oui, mais souvent, ce sont des préservatifs qui doivent être donnés gratuitement, mais souvent, les gens les vendent.
Alors voilà, il y a ça.
Donc, comme les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir les acheter, ils préfèrent ne pas se protéger. Et
c'est-à-dire voilà. Qu'il y en a qui prennent le préservatif, qui s'en servent pour avoir de l'argent.
Pour avoir de l'argent. Voilà,
c'est ça. Il y a du boulot.
C'est voilà. Alors, il y a cet aspect-là, effectivement. Et il y a aussi l'aspect où certaines fois, enfin, j'ai lu des commentaires et il y a des avis où les préservatifs ne sont pas adaptés, en fait. Alors, soit à la taille.
Oui, voilà, vas-y, va à fond, pas de problème.
Non, mais c'est le stéréotype, mais c'est,
ah non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Il y a certaines régions.
Paul, dis-nous.
Ah oui,
les Africains, ils ont une grosse bite.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Voilà.
Vous pouvez vérifier.
Ah non. Il est chaud, Paul.
Vous nous laissez 5 minutes.
Clotaire, non. On va le calmer, Clotaire. Oh là là, chaleur.
Donc, il y a certaines régions où il y a ce problème-là de taille et il y a une marque, de préservatifs qui a sorti des préservatifs 3 fois XL.
Ah oui. Par rapport à ce qui se vend en Europe, voilà. C'est encore plus grand que
donc,
ça.
Donc ils font 21 de long, je sais pas quoi.
C'est pour les éléphants, ça. Les éléphants d'Afrique.
Alors, plus que ça, il y a aussi des problèmes de qualité du préservatif parce que. Bah, en général, comme c'est fait pour que ça soit distribué gratuitement, bah, des fois, les préservatifs sont pas tous de bonne qualité.
Il y avait eu un scandale une année où ils agrafaient le préservatif avec la feuille de soin. Donc forcément, c'est vrai. Il y avait une méconnaissance de l'utilité du préservatif.
Voilà. Alors, il y a le préservatif, mais en Afrique, il y a beaucoup aussi la question de la circoncision.
C'est dans nos traditions. Tous les hommes passent par la circoncision. Des fois, il y a des cérémonies qui sont organisées où les gens vont dans la forêt pour au moins une semaine ou bien deux semaines. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est dans nos traditions, la circoncision. Donc, avant le sida, on connaissait la circoncision. Donc, c'est pas une mode pour pouvoir peut-être pour se protéger contre le sida, mais c'était notre vécu avant.
Donc en fait ils essayent de remettre ça au
oui, c'est ça, pour c'est que le maximum quand même tout le monde n'est pas circoncis.
Voilà, peut-être qu'avec l'évolution scientifique, les gens ont trouvé que la circoncision était favorable peut-être à une situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais sinon dans nos traditions africaines, la
donc c'est donc toi Paul, tu retournes souvent en Afrique, ces problèmes-là, vous en parlez
oui,
ou c'est tabou aussi ou...
Je retourne souvent en Afrique, comme on le dit, le morceau de bois qui reste dans l'eau, quelle que soit sa durée, ne devient jamais un caillou. Donc je suis en Europe depuis des années, mais je suis toujours africain.
Alors j'ai du mal à
d'accord, j'ai pas compris.
Alors. Si, c'est bon, c'est si.
Moi j'ai compris.
Ça y est, c'est
voilà. Donc je retourne souvent en Afrique, mais ce sont des sujets qu'on n'en parle pas trop. Surtout dans les villages reculés, mais dans les grandes villes comme Abidjan, Bamako ou Lagos, ça ce sont des problèmes qu'on parle entre nous jeunes. Voilà, c'est ça.
Restons en Afrique maintenant pour parler cinéma avec Olivier.
Et puis quoi encore? Qui s'est caché ça et qui a par couvert?
Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter.
Bon, on a des jingles spécifiques, hein. C'est spécial, mais c'est l'émission. C'est...
Alors, pour faire ma chronique, en fait, je m'inspire généralement d'un livre qui s'appelle « L'homosexualité au cinéma » de Didier Roth-Bettoni. C'est un livre de 700 pages. Et en fait, l'Afrique, elle n'occupe que 3 pages dans ce livre. C'est-à-dire, en fait, le peu de films... en rapport avec les gays et les lesbiennes en Afrique. Mais j'ai quand même retenu deux films qui traitent d'homosexualité en Afrique. Enfin, en Afrique noire, principalement. Donc, il y a un premier film, apparemment, un film guinéen de Mohamed Camara, qui est sorti en 1997 et qui s'appelle Dakan ou Dakan. Je ne sais pas.
D'accord.
Donc, c'est l'histoire de deux lycéens, donc 17-18 ans, Sori et Manga, qui sont deux hommes, donc ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc, leur amour est très mal accueilli par leur famille et chacun, en fait, va devoir se séparer. Donc, Sori cède aux pressions et se marie et a un enfant. Et puis, Manga, lui, doit carrément aller voir, sa famille l'oblige à aller voir un marabout pour qu'il le délivre de cette passion. Par contre, après, il y a un happy end, en fait, ils vont revenir ensemble à la fin. Tu l'as vu, ce film ?
Précisément, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler de ça, puisque, comme je le disais, dans la tradition africaine, ces genres de situations sont difficiles à en parler.
Ouais, c'est très tabou.
Voilà, ouais. Mais bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la civilisation, chacun a une position, donc dans les grandes villes, on essaie de se surpasser pour en parler plus facilement et ça se développe.
Mais au niveau cinéma, donc il y a très peu.
Au niveau cinéma, très peu, très peu. Puisque c'est fait, le cinéma est fait, le cinéma africain surtout est fait pour que les Africains voient ces films. Mais si ça traite des sujets qui sont un peu...
Ils n'iront pas le voir.
Voilà, ils n'iront pas le voir. Voilà, c'est pourquoi les réalisateurs...
Il y a un autre film apparemment qui a fait scandale au Sénégal en 2001. C'est un film sénégalais, donc, de Joseph Gaye Ramada. C'est Carmen. Carmen Gaye.
Oui, oui.
Donc en fait, ça se situe dans une prison, la prison à Gorée, donc près de Dakar. En fait, c'est une détenue qui s'appelle Carmen qui séduit la directrice de la prison par son érotisme débridé et son insolence sexuelle. Donc elles vont en fait avoir une relation ensemble. Et apparemment, ça fait beaucoup de remous au Sénégal. Et il y a notamment une influente confrérie musulmane du Sénégal qui a manifesté sa réprobation. En fait, dans le film, il faut savoir qu'à l'enterrement d'une lesbienne, en fait, on a passé des chants religieux. Et apparemment, donc ça fait scandale. Ça fait scandale. D'accord ? C'est vrai ? Tu confirmes ?
Oui, c'est vrai, je confirme. Et comme je le disais, dans la tradition africaine, ces genres de situations sont tellement difficiles, sont tellement délicats, on n'en parle jamais. Donc, quand il y a des films comme ça qui se réalisent, c'est difficile de voir ça dans les salles du cinéma africain. Et ça, c'est très difficile. Ouais.
D'accord.
On quitte l'Afrique pour aller dans les Caraïbes. Vous voyez qu'on voyage quand même beaucoup, hein, Tonix Live. On est cette fois-ci au bar Le Level Up d'Angers, où nous rencontrons JP, l'animateur d'Ambiance Soleil, le dimanche à midi sur Radio G. Il n'a pu échapper, lui non plus, à la question LGBT de Clotaire.
Ça va, JP ?
Ça va.
Alors tu vas pas tous les draguer, Clotaire.
Je transpire à grosses gouttes.
Oui, c'est ça, ouais.
Alors, question culture gay. En quelle année l'homosexualité a-t-elle été retirée de la liste des maladies mentales ? Ah ouais, ça je savais pas du tout.
Ah bah voilà, donc t'as quatre propositions, vas-y, voilà. Tu les dis.
En 1942, la même année que la naissance de Barbara Streisand. En 1981, la même année que Captain Flamme a enflammé la télé. En 1990, l'année de la réunification de l'Allemagne. En 2001, Loft Story a vraiment révolutionné le monde.
Super. Alors, on y va. En 1990 ou 2001?
Allez, je dirais 1981.
Que ce n'était plus une maladie mentale en 1981?
Ouais, je dirais 80.
Alors, Clotaire.
Non, figure-toi que c'est 90.
Ah, c'était 90.
Et oui, en fait, après le Danemark ait autorisé les unions civiles entre personnes de même sexe en 89, 7 en 90, donc le 17 mai exactement, que l'Organisation Mondiale de la Santé retient l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et d'ailleurs, le jour international contre l'homophobie, instauré en 2005, justement, se réfère d'ailleurs à cette date, puisque tous les ans, le jour de lutte contre l'homophobie, c'est le 17 mai.
Allons maintenant dans les Antilles, avec un livre qui en dit long sur la situation des homos là-bas dans les années 70. Voici la chronique littéraire d'Olivier.
Bon, je vais vous parler, donc on va à Cuba, dans les Grandes Antilles, donc, et on va parler d'un romancier et poète cubain qui s'appelle Reinaldo Arenas. Je pense que tu connais.
J'ai entendu parler, ouais.
Ouais. Donc en fait, c'est un poète et romancier ouvertement homosexuel qui a été persécuté par le régime castriste. Donc il a passé la majeure partie de sa vie en prison dans les années 70. Et il a dû s'exiler donc, en Amérique en 1980. Donc il a raconté une histoire dans un livre qui s'appelle « Avant la nuit ». En espagnol, ça se dit « Antes que Anougueca ». Je parle pas du tout espagnol.
Ouais, on aura remarqué.
Et ce récit fut même porté à l'écran par le cinéaste Julian Schnabel. Donc ça, il a tourné un film avec Javier Bardem et Johnny Depp. Voilà. Donc, en fait, je vous ai emmené le bouquin pour vous lire des passages. En fait, ça raconte vraiment la vie d'un homosexuel dans les années 70 à Cuba. Alors c'était quand même très très chaud. Hein. Il y a des passages vraiment chauds, on va dire.
Chaud, bah oui.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il, dans son livre qui s'appelle Avant la nuit, donc, il catégorise à un moment donné le type de folle qu'il y a à Cuba. Voilà.
Parce que c'était assez libre à Cuba, on avait.
Bah, oui, c'était très très libre.
Très libre. Hein.
Mais juste, à un moment donné, Castro a décidé qu'ils étaient contre-révolutionnaires,
ouais.
Donc il fallait les enfermer. La majeure partie ont passé leur vie en prison. Donc là, il y a quatre catégories de folles pour lui. Alors d'abord, il y a la folle à l'anneau.
Avec un anneau, c'est ça,
à la voilà. D'accord, donc ouais. En fait, c'est le genre d'homosexuel à scandale qui se faisait tout le temps arrêter dans des toilettes publiques ou à la plage. Le système l'avait pourvu, d'après ce que je pouvais voir, d'un anneau qu'il portait au cou en permanence. Donc la police l'attrapait avec une espèce de crochet et il était traîné ainsi dans les camps de travaux forcés. Donc en fait, on mettait un anneau aux homosexuels.
Pour pouvoir mieux les accrocher.
Pour pouvoir les accrocher.
Oh, putain. Ah oui, c'est ça. Ouais.
Après la folle à l'anneau venait la folle ordinaire. Donc à Cuba, c'est le genre d'homosexuel qui a passé un arrangement, fréquente la cinémathèque, écrit un poème de temps en temps, mais ne prend jamais de risques excessifs. Il va boire le thé chez les amis. Après, il y avait la folle ordinaire. Après la folle ordinaire vient la folle déguisée. Donc la folle déguisée était bel et bien folle, mais presque personne ne le savait. Elle se mariait, avait des enfants, ce qui ne les empêchait pas de fréquenter clandestinement les toilettes publiques, avec au doigt l'anneau nuptial offert par leur épouse. Et puis il venait enfin la folle de la haute, donc une exclusivité des pays communistes. La folle de la haute est celle qui, en raison de liens avec le chef suprême, donc Castro, jouissait du privilège de pouvoir s'afficher comme folle. Elle pouvait mener une vie de scandale tout en occupant des postes très élevés, voyager, entrer et sortir du pays, être couverte de bijoux et de fringues et même disposer d'un chauffeur privé.
Ah bien, une justice à deux vitesses alors.
Oui, un petit peu quand même. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Il parle vraiment de sa vie en prison. Donc les prisons cubaines étaient particulièrement sordides à l'époque.
Toujours, je pense. Hein.
Ouais. Et puis surtout, il évoque... il faut savoir qu'en 1980, il y a eu un phénomène qu'on appelle l'exode de Marielle. Donc en fait, Castro a décidé d'exiler tous les contre-révolutionnaires de Cuba. Donc de mèche avec les Américains, il a décidé qu'il fallait exiler à peu près 100 000 personnes. Donc en 5-6 mois, il y a 100 000 personnes qui ont pris des bateaux et qui sont partis aux États-Unis,
et comme les homos chassés étaient, par Cuba. Comme les homos étaient considérés comme révolutionnaires aussi,
putain, ouais, c'est... Okay. Dont les homos. Alors, il raconte un témoignage. En fait, il fallait prouver qu'on était homosexuel. Voilà.
Donc, dans c'est le contraire. Oui. Si vous voulez partir, il fallait dire qu'on était homo pour pouvoir partir.
Oui, oui. Donc voilà, je vous lis un des passages. Donc la meilleure façon d'obtenir son visa était donc de prouver par un document quelconque qu'on était homosexuel. Je n'avais rien de ce genre pour le prouver, mais j'avais ma carte d'identité spécifiant que j'avais été en prison pour scandale sur la voie publique. C'était déjà une bonne preuve. Donc dès mon arrivée, la police me demanda si j'étais homosexuel. Et je leur dis que oui. Ils me demandèrent si j'étais actif ou passif, et je pris la précaution de déclarer que j'étais passif. Ils avaient refusé le visa de sortie à l'un de mes amis qui s'était dit actif. C'était la pure vérité, mais aux yeux du gouvernement cubain, les actifs n'étaient pas vraiment homosexuels. Ils me firent marcher devant eux pour s'assurer que j'étais bien une folle. Il y avait des femmes qui étaient psychologues, et je réussis le test, et le lieutenant cria à un autre militaire « Celui-là, tu me l'expédies dardard ». Voilà, donc on voit un petit peu comment étaient traités les homosexuels à l'époque. Voilà.
D'accord.
Donc du coup, il est parti à Miami, en Floride, en 80. Et puis, malheureusement, il a contracté donc, le virus du sida en 87. Et devant la déchéance, en fait, il était malade, il ne pouvait plus écrire. Et en fait, il s'est donné la mort en 1990. Donc, en laissant un mot, donc, je vous lis la lettre qu'il a écrite en se suicidant. Donc, en raison de mon état de santé, de la terrible dépression qu'elle me cause, du fait de mon incapacité à écrire et à lutter pour la liberté de Cuba, je mets fin à ma vie. Je veux encourager le peuple cubain dans l'île comme à l'extérieur et à continuer le combat pour les libertés. Cuba sera libéré, je le suis déjà.
On voit que ce soir, on mélange les cultures, mais il y en a qui sont communes à beaucoup, comme la poésie par exemple. On reçoit maintenant Francis, l'animateur de l'émission Poète sans papier. C'est sans protection qu'il répond à notre question LGBT.
Qu'est-ce que le barbac ?
Oh non ! Qu'est-ce que le barbac ? Fallait que ça tombe sur toi.
Tu n'as pas fait ça quand même.
Un gâteau à base de lubrifiant comestible, une activité sexuelle non protégée, une zone internationale où tous les plaisirs sont autorisés, le duty free du siècle, le chant festif de Noël des gays et lesbiennes, petit barbac Noël quand tu descendras du
oh non.
J'enclinerai pour le 4.
Alors, on y va, on reprend. Donc, est-ce que c'est un gâteau à base lubrifiant ?
Je pense pas.
Une activité sexuelle non protégée ?
Je pense pas, non.
Non plus ?
Une zone internationale, non.
Non.
Non, il y a peut-être un mot qui ressemble, mais c'est pas ça. Non,
petit barbac Noël, non ?
Oui, oui, oui.
Petit
oui,
barbac Noël,
oui, quand tu descendras du ciel.
Eh ben, c'est
oui,
pas gagné. Hein. Alors, Clotaire, qu'est-ce que le barbac ?
Eh ben, en fait, c'est une activité sexuelle non protégée.
Ah, zut.
Donc, en fait, ce mot américain qui a émergé chez les gays en France a émergé au milieu des années 90 et signifie « monter à cheval sans selle ». C'est un peu comme manger de la viande sans peau.
Oui, c'est ça, avec l'expression effectivement à l'Afrique.
Donc, il évoque alors des rapports volontairement non protégés entre séropositifs. Donc, à la base, c'était entre séropositifs. Donc, sans le risque véritablement de transmettre le virus, même si là, il y a discorde. Donc, ce terme a aussi pu définir des rapports délibérément non protégés entre un séropositif et un séronégatif ou des personnes qui ne connaissaient pas leur sérologie. Ce qui a suscité des débats passionnés, notamment justement autour de la transmission du VIH.
D'accord, donc voilà, maintenant tu sauras ce que c'est que le barbac.
Oui,
t'as
oui,
bien fait de venir.
Je m'en méfierais d'ailleurs beaucoup.
Mais oui, j'imagine.
Maintenant que je sais ce que c'est.
Mais il y a des rimes riches qu'on peut faire avec ça.
On reste dans la poésie avec une rubrique très stylée. L'occasion de retrouver avec plaisir la voix de Fred dans cette émission qui fête les 20 ans de Tonix Live.
Poète sans papier, certes, mais avec du style. J'ai pensé, existe-t-il un look de poète ? Alors, pour faire poète, il faut avoir l'air simple et torturé. La chemise blanche reste donc un incontournable, un indémodable. Le blanc est neutre et permet donc à tout un chacun d'y projeter ses sentiments. La couleur est une chose, mais quelle matière alors ? Le coton semble une évidence, mais La Fontaine nous soumet une autre matière. Jour devenu moment, moment filé de soie, délicieux moment, vous ne reviendrez plus. Et oui, la soie, que sa douceur vous inspire des vers empreints de beauté, de moelleux. Pour le reste, le poète doit marcher pieds et têtes nues, comme nous l'inspire Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Mais l'odeur, me direz-vous ?
Oh non !
Un poète doit-il se parfumer ?
Ouais.
Malherbe répond oui, mais pas de n'importe quelle senteur. Vous avez une odeur des parfums d'Assyrie. Direction Sephora en sifflotant. Donc, pour demander à la vendeuse un parfum d'Assyrie. Voilà, ami poète, quelques éléments pour ressembler à... Mais si tu veux être un vrai, peut-être vaut-il mieux oublier l'image. Ou comme le dit La Rochefoucauld, alors pas le parking, hein. L'amour propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens. Quel visionnaire ! Il avait déjà imaginé la mode du selfie ! Popularisation de Narcisse que fait ainsi parler Paul Valéry. Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux que de ma propre essence. Tout autre n'a pour moi qu'un cœur mystérieux, tout autre n'est qu'absence. Vous voulez être un poète ? Eh bien, soit. Écoutez donc, et ce sera là ma conclusion, ce que dit Flaubert. Pour un artiste, il n'y a qu'un principe, tout sacrifié à l'art. La vie doit être considérée par lui comme un moyen, rien de plus. Et la première personne dont il doit se foutre, c'est de lui-même.
Oh, bravo !
Tiens, et puisqu'on parle poésie, Olivier a eu l'idée de faire lire un poème au très politiquement correct Francis, l'animateur d'une émission sur la poésie. C'est de la culture. un poil orienté sexe quand même.
Quand on parle de poésie et de littérature homosexuelle, un nom vient tout de suite à l'esprit. Donc Jean Genet, voilà, grand poète du seconde moitié du XXe siècle, on va dire.
C'est-à-dire qu'il ne mangeait pas.
Donc un poète un peu maudit, controversé, mais qui finalement va être vite reconnu et célébré. Donc il a chanté le crime, le vol, la prison et la trahison. Alors Jean Genet, c'est quand même un personnage, hein. Il a passé le début de sa vie entre colonie pénitentiaire et prison. À 16 ans, il a été près de Tours, en fait, dans la colonie pénitentiaire de Métais. Donc près de Tours, en fait, ça l'a beaucoup marqué. Voilà, bah oui. Et puis après il a fait de la prison, et c'est en prison, donc en 1942, qu'il écrit son premier poème, donc le fameux poème Le condamné à mort. Voilà.
Et pourquoi il était en prison et tout ça là?
Bon, en fait, il a fait beaucoup de vols, de larcins et tout. C'était un vrai délinquant, en fait.
D'accord. Hein.
Donc Le condamné à mort, c'est son poème le plus connu, notamment par ses vers célèbres. Donc je vous les cite. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qui fait pâlir le jour. Alors, ce que je vous propose, monsieur, c'est de lire en fait un.
Monsieur.
Bah oui, c'est vrai.
Déjà, t'as pris 10 ans. T'as pris 10 ans, Francis.
Monsieur. Francis.
Je vais enlever la poussière.
Oui.
Parce que j'ai la barbe, j'ai l'âge, je vais enlever la poussière.
Alors, Francis, en fait, je vous propose.
Monsieur Francis.
Monsieur Francis.
Ça fait un peu. Monsieur Francis.
Cours sur les côtés et me dégagez de la oreille.
Donc, le condamné à mort, c'est quand même un peu. Un peu sexuel quand même. Il y a quand même des vers qui sont un peu chauds. Et bien, si vous acceptez, en fait, on vous propose de lire ces vers. Voilà.
Alors, on y va. Un extrait donc de Jean Genet par Francis.
Eh oui. Mordis tendrement le paf qui bat ta joue. Baise ma queue enflée. Enfonce dans ton cou le paquet de ma bite avalée tout d'un coup. Étrangle-toi d'amour, dégorge et fais l'amour. Oui, alors ce sont des vers. Hein. Oui. Après, on passe au vers libre.
Mais
continue.
Adore à deux genoux comme un poteau sacré, mon torse tatoué, adore jusqu'aux larmes, mon sexe qui se rompt te frappe mieux qu'une arme, adore mon bâton qui va te pénétrer.
Bravo! Bravo!
Alors, je dirais que, bon, là, je n'ai pas ramené, j'ai pensé, puis à la dernière minute, je n'ai pas pris. Faut lire quand même aussi, qui est pire encore, c'est dans l'audace, c'est le sonnet appelé l'idole ou sonnet du trou du cul qui a été écrit par Rimbaud et Verlaine.
Oui, Rimbaud et Verlaine,
non mais ils l'ont écrit à quatre mains. Je sais pas si s'en est inspiré, je sais pas, mais
c'est chaud. C'est
encore ah bah mieux. Je sais pas, mais quatre mains s'en inspire, moi.
Oui, c'est bien pour ça que je le disais, et j'osais pas vous regarder.
Ça y est, je crois qu'il a calculé direct, Clotaire. Allez, c'est bien parce qu'avec la poésie, tout passe, en fait. On peut dire plein de choses et ça passe facilement. Olivier.
Si vous voulez, en fait, écouter le poème intégral, je vous conseille d'écouter les Têtes Raides, en fait, qui ont un album qui s'appelle Corps de mots. En fait, ils ont mis en musique donc ce poème, Le condamné à mort. Et c'est une musique qui dure pendant 22 minutes. C'est vraiment excellent. Il y a aussi Étienne Dao et Jeanne Moreau qui ont repris sur scène au théâtre. Ils ont en fait évoqué tout ce poème qui dure quand même une demi-heure. Voilà. Et c'est disponible aussi en DVD, il me semble. Voilà. Alors d'autres poèmes aussi ont suivi, notamment La Marche funèbre, qui est aussi un poème sur l'homosexualité. Alors, Jean Genet, c'est pas seulement des poèmes, c'est aussi des livres. Il faut savoir qu'il a écrit Notre-Dame des Fleurs. C'est un livre qu'il a écrit en 1942. Et ça raconte la vie de Divine, alors travestie, prostituée dans le Montmartre des années 30. C'est vraiment un des premiers livres français qui traite de travestissement en France. C'est vraiment un livre très très émouvant. Il a écrit Querelle de Brest en 1947. En fait, c'est le livre dont s'est inspiré Fassbinder, en fait. Vous savez, Fassbinder, le réalisateur allemand qui a réalisé Querelle, le fameux film allemand.
Oui, non. Quand tu parles de culture, on te croit.
Vous savez pas.
Donc, les auditeurs sont beaucoup plus cultivés.
Et puis sinon, j'en ai parlé déjà beaucoup à Tonix Live. Il a aussi tourné un film, Jean Genet, ça s'appelle Un chant d'amour. C'est un film, un court-métrage en fait, de 25 minutes, entièrement noir et blanc.
entre la passion, en fait, une passion homosexuelle entre deux détenus, voilà, en fait, qui entretiennent une relation homosexuelle, mais d'une cellule à l'autre.
Quittons la littérature pour revenir à la musique. Les animateurs suivants avaient des émissions musicales à la radio et ont accepté de venir se mélanger avec Tonix Live. Mais quelle bonne idée! Les voici maintenant dans les bras de Clotaire pour répondre à ces questions LGBT.
En quelle année est passé le Pax? Alors, réponse A, en 95. Merci à Pédale 12 d'avoir remué les esprits.
Oh non.
Réponse B, en 1998, grâce aux joueurs de foot qui s'enlaçaient et se bisouillaient après la Coupe du Monde. Ouais. Ouh là là. Ou alors, en 1999, année de la sortie de Tarzan de Walt Disney. Ou en 2001, pendant qu'Amélie Poulain, comptait le nombre d'orgasmes du haut de Montmartre.
C'est vrai. Alors, quelle année?
Vu qu'on est quand même particulièrement arriéré en France sur ce genre de questions, j'aurais tendance à dire 2001.
Ouais, la même.
2001 ?
99, mais...
Clotaire ?
Eh ben, c'est 99.
Oh.
Bon, allez, je vous avoue, Tarzan n'y est quand même pas pour grand-chose là-dedans. Hein.
Je pense, même si effectivement, Walt Disney s'est particulièrement lâché sur la morphologie du personnage. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire.
Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est bien en 99 que le Pax a vu le jour et a été la première possibilité d'union pour les couples, du coup, de même sexe. Étonnamment, en fait, le Pax a eu plus de succès, finalement, chez les hétéros, puisque, pour exemple, en 2010, sur 201 600 Pax signés, seulement 9 100 sont contractés par des couples de même sexe, ce qui représente que 4,5%.
Eh ben...
Donc, heureusement, finalement, que le mariage est passé, parce que je pense que le Pax n'avait pas énormément convaincu non plus.
Alors, qu'est-ce qu'un TROD ? Une méthode de dépistage du VIH, un code permettant d'identifier discrètement les homos... Une application pour se trouver des plans amitié rapide, direct et en toute discrétion. Le surnom donné aux globetrotteurs gays, les grands voyageurs à l'esprit aventurier.
Alors, t'es érodé, c'est ça?
Alors, c'est érodé.
Ouais, ça veut dire quoi?
Je pense le surnom donné aux globetrotteurs gays, les grands voyageurs à l'esprit aventurier, je dirais, sans.
Il y a du boulot, hein.
Non, allez. Eh bien, non, puisqu'il s'agit d'une méthode de dépistage du VIH. Donc, en fait, ça veut dire exactement TROD, test rapide à orientation diagnostique. Donc, en fait, c'est simple. On pique le doigt afin de récupérer juste quelques gouttes de sang. Et à peu près dans la demi-heure qui suit, tu as ton résultat sérologique. Donc, petit bémol toutefois, donc même si le test est fiable, la période de lecture d'une éventuelle séropositivité ne se fait pas sur les 3 derniers mois, contre 6 semaines par une prise de sang classique.
Nos invités étant de femmes mélomanes, nous avons recherché pour eux des chansons gays et lesbiennes à travers différentes époques. Voici la chronique musicale de Florian.
Oui, alors écoutons le premier extrait.
Un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon pied.
Alors c'est à double sens un petit peu ça.
Oui,
j'imagine.
Un petit peu, c'est sûr que oui.
Le trou de mon quai, c'est ça.
Et oui, c'est une chanson qui date de 1906, qui est chantée par Charles Armand Ménard dit Dranem. Voilà, il chantait des petites chansons comme ça sympathiques.
Ouais. Tu passerais ce genre de chanson dans l'émission?
Pourquoi pas?
Bon, on va donner les coordonnées.
C'est marrant,
oui, le trou de mon quai, c'est marrant. Ouais.
Alors il chante des chansons un petit peu comme ça humoristiques à double sens. Mais il a quand même été fait chevalier des Légions d'honneur.
Ah.
Et il a créé une maison de retraite, Harry Soranchi.
C'est bien.
Je vois vous dire la blague.
Alors oui, qui est ouvert de quelle heure à quelle heure?
Non. La première maison de retraite qui était destinée à accueillir les anciens du spectacle.
D'accord.
Ah oui, voilà.
Ah bah Bruno, tu vois, l'an prochain.
Allez, va mourir. On écoute la deuxième ?
Allons-y.
Savez-vous ce qu'on dit de Zizi ? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli est si gentil. On dit qu'il en est.
Il est
alors, oui, ça, on reconnaît.
Alors là, il faut reconnaître un petit peu la voix.
Attends, oui, la voix. J'ai vu, moi, sur le papier.
Ah,
oui, forcément.
Alors, Fernandel.
Alors, c'est mon vélo, c'est Bourville, ça.
Mon vélo, c'est Bourville.
J'ai mal lu, en fait.
C'est ça.
Fernandel. Fernandel, oui, une chanson qui date de 1968.
D'accord.
Voilà, bah on connaît tous Fernandel, donc j'ai rien à dire dessus.
Tu passerais ça?
Pourquoi pas, moi je peux
franchement.
Dis franchement que ces chansons sont nulles, hein. Tu peux, hein.
Nous on s'en peut-être pas, alors
je peut-être pas. D'accord. Alors la troisième, tu vas peut-être la passer.
Deux Anglaises, les soirs de pluie s'aimaient.
C'est pas mal, c'est très doux.
Mmh. Oui, toute la chanson est comme ça, très très très
doux. C'est qui casse les Anglaises?
Voilà.
Oh, et... oh non, alors un peu de poésie, on est que dans la poésie là.
C'est qui là?
Et donc c'est Clarica, une chanson de 2000.
Ouais, voilà. Donc, ça, ah, ça fait très
ça,
mal.
On est dedans.
Alors Clarica, je vais juste
vas-y.
Dire qui c'est parce que moi je connaissais pas. Donc voilà. Elle a débuté sa carrière en 93 à peu près. Elle a fait donc elle a fait surtout les Francofolies un petit peu.
Ouais.
Voilà. Donc, on l'a entendu beaucoup là. Et elle a fait la première partie de Zazie en 2005. Voilà, et depuis elle continue à chanter, elle sort des albums régulièrement et
bon,
ben, on l'entend, mais
1 sur 3 qui a accepté, c'est bien.
On poursuit notre crossover avec deux nouvelles questions de Clotaire, avec entre autres Aymeric V, l'animateur de Beatscape, qui ne s'en laisse pas compter.
En quelle année l'arc-en-ciel est-il devenu le drapeau de la fierté LGBT? 1967, avant avec la TV en noir et blanc, on ne voyait pas que c'était un arc-en-ciel.
Oui.
Ou alors, 1973, il fallait bien ramener de la gaieté après le choc pétrolier. 1978, l'année de sortie de Dallas. Ou alors, 1981, la même année que les premiers cas de sida.
Alors, 67, 73, 78 ou 81 pour le Rainbow Flag?
Alors,
ça serait quelle année?
J'aurais dit sortie de Dallas, ça m'étonnerait quand même.
Alors, il reste
60, ça peut être rapide.
Dallas, j'étais pas encore.
78, ouais, bah oui.
Alors, 67 ou 73?
Je pense que c'était bien avant. Je pense que c'était plus.
Ah, c'est dans les 4, hein, donc.
Ça peut pas être 80, déjà, j'ai mis une 80, j'ai mis une 78, donc oui. Il me reste 67 et 73.
Tu vas appeler un ami ou...
C'est ça, c'est un peu ça, ouais.
Ça rappelle les 50. Allez, je pars sur la 73.
73.
Eh bien non, c'est 78, Philippe. Ah. La même année justement que la sortie de Dallas.
Sortie de Dallas, d'accord.
Et sais-tu combien il y a de couleurs dans le drapeau, gay?
Alors, je
dans le Rainbow Flag.
Tram, donc je regarde.
C'est pas exactement les mêmes sur le drapeau.
J'aurais plus dit peut-être 8 ou 10.
Oh non, moi 10.
Moi.
Ah non, 6,
ah, pardon,
il y a 6 couleurs.
Exactement.
Il y a 6 couleurs.
Sauf que dans le tout premier drapeau qui a été conçu en fait en 1978, bah lui, il comportait 8 couleurs.
8 couleurs.
Donc le rouge pour la vie, l'orange pour la réconciliation ou la guérison, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le turquoise pour l'art, l'indigo pour l'harmonie, le violet pour l'esprit de communauté et le rose pour le sexe. Et donc il a été réalisé, c'était deux énormes drapeaux qui ont été cousus main par une trentaine de personnes et qui ont justement été utilisés la même année, donc en 78, pour la première Lesbian Gay Pride de San Francisco. Après, en 79, bah, la majorité des villes ont voulu justement ces fameux drapeaux. Et comme le coût de production était beaucoup trop cher avec toutes ces couleurs, ils ont décidé en fait d'en faire sauter deux. Donc, à savoir le rose vif et le turquoise. Et encore pour des raisons de coût, ils ont remplacé l'indigo par justement le bleu royal qu'on retrouve aujourd'hui sur nos drapeaux. Qu'est-ce qu'un queer ?
Un queer, ça veut dire en anglais homo, enfin ça veut dire étrange, étymologiquement étrange, bizarre, et par décalé, ça veut dire homo. Voilà.
Tu vas arrêter de lire mes chroniques?
Non, ça veut dire ça. C'était... Et d'ailleurs,
il avait des propositions de faire quand même.
Et d'ailleurs,
il avait des propositions.
Écoute, merde.
Il a tout dit.
Non mais j'ai fait bah,
pratiquement.
Ah ouais, moi je crois que ça voulait dire folle ou.
Pas du tout. Enfin, ça... Non, même pas en plus.
Alors, en fait, justement, le terme américain queer, comme vient de le dire Monsieur Beatscape, ça signifie étrange, louche, et en gros, la traduction exacte, ça serait plutôt PD, avec ouais. Une connotation également de tordu. Donc ouais. Ça s'oppose à straight, qui signifie hétéro.
Et attention, parce que fag, ça veut dire tapette, ou fiotte.
Eh ben...
F-A-G. Oh, et fag, c'est aussi un mégot de cigarette. Ça, c'est un mégot de cigarette.
Faut qu'ils viennent faire une chronique dans
Tonic Live. Je pense qu'il faut que tu viennes faire une chronique, là. Mais en fait, ce terme, il est né dans les années 90 et il remet principalement en cause, justement, les catégories d'identité sexuelle, donc c'est-à-dire les identités du genre, donc homme ou femme, et d'orientation sexuelle, hétéro et homo. Et c'est principalement pour ça que c'est utilisé pour les homos. Et le queer ne se limite pas à combattre justement les inégalités ou les dominations entre ces catégories, du style l'homophobie entre autres, et il remet en cause l'existence même carrément de ces catégories. Donc le queer est principalement utilisé pour les personnes qui ne veulent pas de jugement sur les autres. Donc même si on l'utilise principalement pour des homos, eh ben, y a des hétéros qui peuvent quand même se définir comme queer, parce que c'est pas parce que t'es hétéro que t'es forcément stoppé dans tes idées. Mmh. Mais alors, de façon générale, ça signifie vraiment folle, comme tu l'as dit au début.
Alors j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que, et même pour toute la table, qu'est-ce que vous pensiez, vous, de cette grande mode qui a consisté à voir à la télévision, par exemple, des émissions comme Queer, des shows comme Queer as Folks, par exemple?
Non, ça, c'est là une série, Queer as
Folks. Oui, c'était une série.
Oui, mais c'était très bien. C'était très bien cette
série. Et Looking, alors Looking.
Ah, bah Looking, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission.
Ah, c'est chiant.
Alors, il y en a qui ont aimé, d'autres moins. Hein. Donc, c'est assez.
Réaliste, mais.
Ouais.
Oui, c'est pas grand-chose.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais en show télé, effectivement, il y avait un truc, tu sais, les cinq queers là.
Oui, c'est ça. Il y avait un truc sur TF1.
Qui faisait ton appart, l'autre qui t'apprenait à cuisiner, je sais plus quoi.
Plus il y a de présence, ouais, mieux, bon. Plus il y a de présence, mieux c'est.
Oui, mais est-ce que c'est pas un peu stéréotypé quand même?
Oui, mais
pourquoi
mais
qui refait le look, qui refait l'appart? Ouais, ah bah à partir de. Ouais. Alors ça, c'est bien, parce que bon, moi, personnellement, je fais pas partie de cette communauté, mais alors il y a un truc qui. Juste, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui s'assument pas dans tout ce qu'ils font. Voilà, et, bon, et moi j'aime bien les gens qui s'assument. Non, mais c'est bien les gens qui s'assument et qui peuvent le faire. Et je sais que c'est pas facile dans tous les cas, mais
c'est pour ça. Après, moi je trouve qu'il n'y a pas de jugement là-dessus parce qu'il y a des gens qui s'assument pas parce que ça peut être très compliqué selon où tu vis, selon ta vie, quelquefois.
Oui, enfin, il y a s'assumer avec les autres, mais il y a s'assumer soi-même aussi.
On peut avoir
de l'humour sur soi-même aussi, un petit peu.
Parce que je pense qu'une grande partie de l'homophobie, c'est des gens qui ont peur et des gens qui ont peur parce qu'ils s'assument pas, ne serait-ce que leur part de féminité ou des trucs comme ça.
On a beaucoup parlé musique avec ces animateurs venus se mélanger à nous. Ils ont pu découvrir nos goûts plutôt spéciaux en la matière. Surtout ceux de notre chroniqueur Mathias qui nous fait revivre sa jeunesse musicale.
Alors Mathias,
oui.
Bonjour déjà.
Bonjour.
Bonjour.
Allez, tous en cœur. Bonjour
Mathias. Ça, c'est la réunion des alcooliques anonymes. Hein. Donc, tu nous as puisé dans ta jeunesse des musiques que tu écoutais.
Oui.
Et ça donne quoi alors? Tu veux nous faire écouter des choses alors?
Je pense que c'est un peu effrayant. Enfin, on comprend mieux certaines séquelles de.
Ah, on te comprend mieux toi,
ouais,
maintenant.
Je pense.
D'accord,
ouais.
Bah, ils te connaissent pas trop, donc du coup, ils vont pouvoir te connaître un petit peu. Hein.
On a le droit de savoir ce que c'était.
Ah, bah justement, on va écouter.
Ah, d'accord.
Tu veux qu'on écoute la première?
C'est parti.
Eh bah, c'est parti, on y va.
Ça m'a rappelé un ancien traumatisme aussi, cette chanson.
Ouais, c'est doux, c'est frais, c'est pour musique de nuit, c'est bien.
C'est léger, c'est fin, c'est bon.
Qu'est-ce que c'est que cette merde, Mathias?
Ah, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est une fille qui chante. Ah, elle a une voix toute douce ou gentille, et d'un seul coup, elle crie dans son micro et.
Ah, on en connaît d'autres.
Mais c'est qui? C'est quoi?
Une chanteuse? Etz.
Etz.
E-T-H-S.
E-T-H-S, complètement. D'accord. T'as autre chose à nous dire sur elle ou on passe à la suivante?
Bah,
moi, je te dis que si t'as envie d'écouter du métal à chanteuse, je te conseille Arc Enemy, c'est beaucoup mieux.
D'accord.
Ah, j'ai écouté du Etz dans les jeunes années et après j'ai. Ah, il connaissait, tu vois?
Oui, je connaissais. Moi, j'ai.
Mais c'était connu?
Etz, c'est pas du coin à la base?
Du coin, je sais pas, de France, oui. Après, j'ai jamais poussé jusqu'à aller voir ça en concert, mais j'ai eu ma période qui a dû durer à peu près 2 mois où je me suis dit ah ouais, c'est cool, une fille qui fait du métal, c'est mortel. Et en fait, après, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça beaucoup mieux. Je crois qu'il n'est pas sorti de ça.
Hein. Tu nous écoutes.
Ouais, c'est ça. On t'aime, quoi. Elle est toujours vivante, Etz.
Oui, elle est toujours vivante.
On t'aime,
bisous.
Maintenant, elle fait. Elle
a plus de voix.
Elle a plus de voix maintenant. Elle fait des cantines pour enfants. On écoute la deuxième.
On écoute la deuxième.
Chez toi il fait trop froid. J'ai perdu mon drapeau. Je crois que tout s'est brûlé. J'ai oublié
Bon, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a eu les mêmes compis quand on était jeunes, c'est ça?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Un guérilla poubelle.
C'est un slow?
Oui, c'est ça, c'est une chanson d'amour.
Guérilla poubelle?
Oui.
C'est agréable, ça.
En fait, c'était avec certains musiciens du groupe Les Betteraves qui se sont reformés dans un groupe. Bon, c'est à peu près le chemin.
Ah, bah justement, tiens, les Betteraves, on les a. Ah, ça, elle connaît ça. Ah, celle d'avant aussi. Ah, bah, tu vois, t'es vraiment dans le musique de nuit. Hein.
Voilà.
Vous le voulez, on en veut plus. Hein. On vous le laisse.
Mais surtout, Mathias, comment tu peux passer de ce que tu nous as fait écouter là maintenant à chanter toute la journée Libéré?
C'est vrai, maintenant il chante la Reine des Neiges. Hein, c'est...
Mais Yann aussi, mais c'est fou.
Ah, mais c'est fou. Mais dingue.
Sécurité, vous me les sortez, c'est ouais, de c'est là, ça. Déjà direct.
Allez, petite dernière.
Une dernière.
Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver et la chef des mouches.
Bon, ah ben oui, les vaches, ouais, c'est pas aussi, mal. Non, je connais. C'est plus calme déjà.
On connaît aussi. Hein.
Tu connais aussi
Ouais.
Ah non, elle connaît pas. Ah, celle-là n'est pas.
Oh, toute une éducation.
Ah, oh,
Lucie. Et pourtant, on la surnomme Lucipédia dans l'émission, mais là, Lucipédia a des problèmes de connexion, manifestement.
Bon, je sais pas si finalement je préfère pas vos propres choix à vous avoir par rapport à ceux de Mathias.
C'est très mélodieux pourtant, c'est très.
Oui, d'accord.
C'est assez génial parce qu'on est en train de prendre un stage d'émission vraiment hors norme, mais limite pour la sélection musicale, c'est vous qui viendrez faire le stage chez nous, il n'y a pas de problème.
C'est clair. Donc il vous a trouvé des chansons bien alors ? Vas-y raconte.
Oui absolument, j'ai cherché sur internet, alors j'ai fait que internet, hein, YouTube principalement, pour dénicher effectivement des chanteurs déjà que moi-même je ne connaissais pas, donc j'espère que vous ne les connaîtrez pas non plus. et puis alors soit qui ont chanté un petit temps, alors soit ils ont chanté un petit temps pendant quelques années puis on les a perdus de vue.
Ouais.
Soit ils chantent dans des groupes locaux.
C'est la crème là. Mais... Top de la crème là.
Voilà,
s'ils ont chanté qu'un petit temps, ça doit faire des morceaux très courts quand même.
Oui, bah là, on pense que ça va être court, hein, parce que c'est vraiment un. Les extraits. Bon, on y va.
Les extraits. Allons-y pour le premier. Allez, c'est parti.
Pour les adolescents, trop cons, trop pignards, trop bêtes et insouciants, ils savent pas que leur vie dans 2 ans est finie, qu'après c'est la guerre, c'est la merde, c'est la vie.
Ah bah dis donc, c'est plein de joie hein, ton truc. Bon, alors il y a des choses, c'est assez space quand même. Je crois que sur le troisième, t'as réagi un peu.
La troisième me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre la référence.
Ouais, moi nous non plus, hein, je te rassure. Avec Shazam, j'ai essayé, j'ai même pas trouvé. Donc,
Je connais même pas, non.
Et ça va, pour quelqu'un qui a allé chercher au fond de YouTube des artistes, je trouve que t'es pas encore tombé trop bas, parce qu'il y a des choses, des fois que tu trouves quand tu vas au fond de YouTube.
Ah ouais, mais attends, le premier c'était quand même fort, avec la J'aime Manana, là, c'était...
T'es Manana.
Ouais, mais il y a pire. Croyez-moi.
Non, c'est pas l'Eurovision d'ailleurs, là.
C'est ça. C'est vrai. Alors vas-y, raconte-nous, c'est quoi ces trois chansons?
Alors, le premier, c'est Billy.
Inconnu au bataillon.
Oh, Billy Rocker.
Billy qui chantait voilà, dans les années 80, qui chantait quand il était tout petit. Il avait 12 ans, il chantait au temps des surprises parties, avec les Four Bands, il chantait ça.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, T'es Manana, c'est une chanson de 92. Donc, il avait 22 ans, pour le coup. Et
c'est nul. c'est de la merde. Voilà.
Et donc, après ça, on l'a plus du tout entendu.
Oui, tu m'étonnes.
Donc, il chante maintenant, il fait des concerts, des mini-concerts de temps en temps, en France.
Alors, le deuxième.
Le deuxième, c'est Billy Fumet.
C'est un autre Billy,
oui, parce que j'ai fait dans.
Ouais, ça fait YouTube, t'as fait Billy.
Voilà, Billy the Kid d'après.
Donc, c'est Billy Fumet, c'est un folk franc-comtois.
Folk franc-comtois.
Un amateur de cancoyote.
Et.
Bien. Hubert Félix, si tu m'entends.
Donc, sa chanson, c'est Ma belle capitale. Donc, en fait, il vante les mérites de Besançon, certainement.
Oui.
C'est même sûr.
Bon, alors, le troisième.
Et le troisième, c'est le. Alors, c'est Bob's Not Dead.
Ah ouais, alors non, j'aurais pu le chercher très longtemps, celui-là je l'aurais pas trouvé.
Voilà. C'est dépressif, hein, ça. Je pense que là, il y en a pas pour longtemps.
Il a un look un peu à la punk, de ce que j'ai vu. Ouais. Mais après, je sais pas quel style c'est ou quoi. Enfin, vous êtes plus classique que moi.
Bon.
Ça va, mais.
Voilà, on est dans la chanson à texte bien
ouais,
comme il faut.
Je pense que c'est...
Bah, d'ailleurs, j'ai les textes.
Hein, si ah, t'as les textes.
T'as même les textes.
Bah, de Bob's Not Dead, j'ai le texte de la chanson.
Ouais.
Chanteur de bar, donc je vous lis les premiers. Je suis chanteur de bar, chanteur pour alcoolo.
Tu peux nous la chanter peut-être.
Ouais.
Ah,
allez, une petite perflèche au micro du crossover.
Oui, alors après
dont les femmes ce soir les traiteront de poivrons quand leur grand désespoir noyé non pas dans l'eau, mais seul dans le retard, seul comme un alcoolo. Voilà, c'est le début, puis la suite.
C'est pas mal. Bon, bah, écoute, on va garder ça juste en chanson.
On va commencer de suite, hein, Tavernier.
Allez, une dernière question de Clotaire pour la route. Cette fois, c'est pour les animateurs de l'émission sportive. Bienvenue dans le dojo, Cédric et Yann.
Alors, qu'est-ce qu'un beer? Beer, B-E-A-R.
B-E-A-R. Comme l'ours.
Un ours, en fait.
En anglais.
Alors, un vêtement à la mode, une catégorie spécifique de la classe gay, une boisson à base de bière... Un homo enrhumé qui voudrait juste un bière s'il vous plaît.
Une bière s'il vous plaît.
Un bière s'il vous plaît.
Alors, il aurait l'accent belge alors.
C'est ça, un bière. Ce serait quoi?
Alors, une boisson à base de bière, je pense pas.
Non.
Donc on enlève. Je connais quand même un petit peu la bière.
La dernière,
je partirais bien sur la 2.
La 2, ouais.
C'est quoi? Une catégorie spécifique de la classe gay.
Ah, la classe gay. Alors, c'est quoi?
Eh ben, bravo, messieurs. Donc, en fait, j'ai pris celle-là pour vous parce que je connais rien en arts martiaux, je vous avouerai, sauf à part justement les sumos qui sont assez, je dirais, corpulents et qui me faisaient plutôt penser justement à des bears.
Ouais, enfin, ils sont pas poilus, hein.
Mais figure-toi qu'en fait, les catégories de gays, les bears, c'est une caractéristique de gays au physique particulier. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont soit définis par leur corpulence, mais également par leur pilosité. Ils sont pas tous ultra poilus. Okay. Donc, par exemple, t'as le daddy qui a souvent 45-50. Content et qui porte une pilosité du coup plutôt grise. Te sens pas visé, hein?
Non, j'ai pas 45 ans. Voilà. J'ai pas 45 ans. Ça.
Ensuite, donc tu as le bear qui est un homosexuel qui est plutôt porteur d'une pilosité faciale et corporelle en général fournie et qu'il essaye de mettre le plus possible en avant. Ensuite, tu as le muscle bear qui est lui ultra musclé, très 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 musclé et très très poilu.
C'est plus toi, alors.
C'est plus moi. Ouais.
Après, tu as le bûcheron. Donc c'est...
Ça c'est les Canadiens, c'est les Canadiens.
Eh ben exactement. Tu connais
ceux
quand
qui
même.
Plantent la tente.
C'est un homme velu de carrure imposante, souvent rond ou musclé, et qui aime cultiver le style justement assez canadien avec la chemise à carreaux principalement. Et après en fait t'as quand même les admirateurs, donc c'est ceux qui font partie d'aucune des catégories beer mais qui aiment bien les bières, enfin les bears. Et après t'as des sous-catégories en dessous en fait. Par exemple tu as le panda.
Ah bon?
Bah le panda.
Kung Fu Panda.
Voilà. C'est un petit bear parce qu'il n'est pas ultra, ultra, ultra gros non plus. Mais par contre, il faut qu'il soit d'origine asiatique. Sinon, ça ne marche pas.
Bon. Après. Le bambou.
Aussi, ouais, le bambou, et qu'il prenne pas le bambou.
Après, tu as la princesse.
Ah, Princesse Peach.
Alors, une bière princesse, ça peut être quelque chose de spécial quand même. Hein.
Et bah, c'est un bear qui est efféminé et qui cultive souvent l'humour cynique. Après, tu as le renard. Donc ça c'est un bear au poil roux.
Fuchs.
Après tu as un paresseux, mais j'ose pas le dire trop fort parce qu'on est dans un endroit où il y a pas mal de jeux vidéo. C'est des bears qui ont des difficultés souvent à se lever tôt et souvent tu les retrouves à des endroits de jeux vidéo parce que c'est des vrais geeks ou des informaticiens. D'accord. Et après t'as le Chewbacca. Et ça c'est un bear qui est fan de Star Wars.
Bien sûr.
Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les bears, messieurs.
Mais moi j'avais une question, est-ce que le daddy est cool?
Oh là là, mon dieu.
Si, c'est pas mal. Non.
Ça dépend desquels, il y en a qui sont violents, crois-moi.
Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. On fête les 20 ans de Tonix Live en vous faisant redécouvrir les bons moments que nous avons partagés avec vous durant toutes ces années. Merci à tous ces animateurs venus nous voir pour ces crossovers des plus improbables. Dans la prochaine émission, nous répondrons à vos questions depuis les plages de l'ouest de la France avec la dernière génération des chroniqueurs de Tonix Live.
On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit, pour continuer à fêter avec vous nos 20 ans. Bonne soirée à toutes et tous sur votre radio. Vous venez d'écouter une émission LGBTQI. Il y en avait un peu plus, mais on vous l'a mis quand même. C'était un X-Live.
Libéré!
www.radio-g.fr.
Hello, coucou, salut, moi c'est Thierry. Si comme moi vos oreilles se dressent quand une musique afro-américaine se fait entendre, je vous attends chaque jeudi à 21h pour Sons of Blues, ici sur le 101.5 de Radio G. Une heure de blues dans tous ses états. De l'international au local, des découvertes, des nouveautés, sans oublier les grands qui ont fait l'histoire de cette musique. Rendez-vous chaque jeudi à 21h en direct pour Sons of Blues sur Radio G 101.5.